Il est 7h sur Europe 1.
On est toujours un peu stressé par ce foutu Covid et surtout ce pass sanitaire. Mais on les accepte quand même, voilà, donc les contraintes, donc voilà. On est content d'être en vacances quand même.
L'ombre du Covid masque le soleil des vacances. La flambée des cas et le retour des restrictions dans plusieurs régions gâchent déjà les congés et nous ne sommes qu'à la fin du mois de juillet.
Le pass sanitaire toujours examiné au Sénat aujourd'hui. Hier en commission, plusieurs mesures ont déjà été retoquées et en séance, l'opposition ne mâche pas ses mots.
Le phare de Cordouan en passe de rejoindre la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La décision est attendue aujourd'hui et pour ses défenseurs, ce monument unique de 67 mètres de haut a toutes les chances d'être retenu.
Et puis l'émotion des fans d'Amy Winehouse, venue lui rendre hommage dans le quartier de Londres où elle vivait, 10 ans que la chanteuse anglaise nous a quittés.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une actualité à laquelle il est bien difficile d'échapper. L'épidémie de Covid est partout.
Et elle nous suit même en vacances. Ceux qui visitent la Charente-Maritime en savent quelque chose. Le taux d'incidence du département dépasse largement la moyenne nationale. Il est plus élevé que jamais. 247 000 cas pour 100 000 habitants. À La Rochelle, les vacanciers craignent donc le retour des restrictions.
Ça va, parce qu'on est en vacances du coup, mais ouais non, on est toujours un peu stressé par ce foutu Covid et surtout ce pass sanitaire. Mais on les accepte quand même, voilà, donc les contraintes, donc voilà. On est content d'être en vacances quand même.
On n'est qu'à la mi-juillet, hein, et encore tout le mois d'août, et ça repart de plus belle, donc certainement, nous, on va être à nouveau embêtés avec ça. Mon Dieu, quelle année!
On entame notre deuxième semaine de vacances. La première semaine, franchement, on était bien, le masque n'était pas obligatoire. Là, il est depuis mercredi, où effectivement, les gendarmes circulent.
C'est une question de temps, parce que toute la côte, en fait, tout le sud, en plus toute la côte ouest, est touchée. Et je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui ont été convaincus par la vaccination. Ça serait mieux sorti aujourd'hui, quoi.
Un propos recueilli par Laura Taouchanov en Charente-Maritime, où on compte donc 247 cas pour 100 000 habitants.
Loin des plages, le Sénat examine depuis hier le projet de loi sur le pass sanitaire.
Le texte a déjà été modifié en commission. Les centres commerciaux et les visiteurs à l'hôpital ne sont plus concernés. Les sanctions sont allégées. Le contrôle de l'isolement des personnes positives est assoupli. Mais l'opposition regrette ce qu'elle qualifie d'autoritarisme du gouvernement. Hier soir en séance, la sénatrice PS Marie-Pierre de la Gontrie a dénoncé une attaque aux libertés. Écoutez son intervention captée par Caroline Baudry.
Vous allez aussi découper l'espace public entre les endroits où nous pourrons aller, les endroits où nous ne pourrons pas aller. Vous allez instaurer un contrôle d'une moitié de la population par l'autre. Vous voulez qu'effectivement, dans chaque lieu, il faille montrer son pass pour entrer, pour ne pas entrer. Je passe sur les difficultés, nous y reviendrons lors de l'examen des amendements, de certains qui ne peuvent pas les obtenir, parce que les dates ne sont pas les bonnes, parce que les vaccins ne sont pas les bons, parce que les pays où ils les ont administrés ne sont pas répertoriés. Vous allez porter atteinte à la liberté d'aller et venir, et au final, vous souhaitez, de fait, c'est quasiment assumé, une forme de surveillance généralisée, une forme de France en liberté conditionnelle.
Extrait du débat au Sénat qui se poursuit aujourd'hui autour du pass sanitaire. Projet de loi qui mobilisera d'ailleurs des milliers de manifestants. Samedi dernier, ils étaient plus de 110 000 dans toute la France. Cette semaine, les autorités s'attendent à une mobilisation plus importante après le vote du projet de loi à l'Assemblée nationale.
Et parmi les mesures qui font grincer des dents et qui ont été votées par les députés, il y a la possibilité pour les établissements recevant du public de licencier leurs salariés s'ils refusent le pass sanitaire.
Oui, plusieurs organisations syndicales sont montées au créneau. C'est le cas de la CFE. CGC, le syndicat des cadres, son président François Auméril au micro européen de Clément Lesaffre.
Le gouvernement n'assume pas les conséquences de ses décisions. Soit il rend le vaccin obligatoire et il en assume les conséquences, soit il ne le rend pas obligatoire. Et à ce moment-là, ce moyen de licenciement pour non-présentation du pass est définitivement inacceptable. C'est ce que j'appelle, moi, une transgression ou un dérapage. Il n'est pas acceptable de mettre au même niveau le fait de pouvoir travailler ou de ne plus pouvoir travailler comme le fait de ne pas pouvoir rentrer dans un restaurant ou de ne pas pouvoir rentrer dans un cinéma. Là, on considère que ça va beaucoup trop loin. C'est ça qui vraiment pose problème. Point sur lequel j'aurais aimé, pour le coup, qu'on ait une forme de concertation préalable avec le gouvernement, ce qui n'a pas eu lieu.
Et pour le gouvernement, ce qui compte avant tout, c'est l'avancement de la vaccination. L'exécutif espère atteindre 50 millions de premières injections fin août.
Près de 30 millions de Français sont déjà complètement vaccinés. Il en reste encore beaucoup à convaincre. En Île-de-France, l'Agence régionale de santé a donc déployé des médiateurs anti-Covid. Ils sont postés sur les lieux fréquentés, comme cette base de loisirs de Cergy-Pontoise, près de Paris, où les a rencontrés Thibaut Hue.
Devant ce centre anti-Covid de banlieue, ils sont 5 médiateurs. 3 femmes, 2 hommes entre 25 et 35 ans, formés pour tordre le cou aux idées reçues. Le vaccin va-t-il changer mon ADN? Le risque de thrombose est-il important? Ninive doit avoir réponse à tout.
On va les sensibiliser par rapport aux gestes barrières, par rapport au vaccin aussi. Moi, je leur dis que moi, personnellement, je suis vaccinée. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu d'effets secondaires. Je ne suis pas morte, quoi.
Et pour rassurer les réfractaires, leur discours est rodé, mais pas toujours facile d'expliquer qu'il n'y aura pas d'effets secondaires.
Si je fais cette vaccin, que je décède, qui va s'occuper de ma famille? Qui va s'occuper de mon enfant? Parce que moi, j'ai peur.
Alors, mais normalement, si le gouvernement elles impose, c'est parce que c'est ça qui est bon pour vous.
Maëva repart sans réponse et toujours aussi inquiète.
Toutes les questions que je lui pose, il est incapable de me répondre parce qu'il me dit que c'est le gouvernement qui impose. Et c'est dommage.
D'autres sont déjà convaincus. Les médiateurs n'ont plus qu'à les rediriger vers le centre de vaccination installé à seulement quelques mètres.
C'est gratuit, sans rendez-vous. Vous pouvez passer.
C'est
sans rendez-vous, oui. Sans rendez-vous.
Pour la deuxième dose.
Oui, oui.
Faciliter l'accès au vaccin, inciter les anti-vax. Si cet après-midi, les médiateurs n'ont pas changé les mentalités, ils auront quand même aidé une dizaine de sceptiques à franchir le pas de la vaccination.
Un reportage signé Thibaut Hu.
Et à 7h passée de 7 minutes sur Europe 1, les premières médailles sont tombées aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Oui, aucune française pour le moment, malheureusement. Mais on a peut-être une chance en judo. Luka Mekhedze, en moins de 60 kilos, s'est qualifié pour les demi-finales. Il n'est plus qu'à un combat d'une médaille olympique. Et puis autre chance, le porte-drapeau de la délégation française, Samir Aït Saïd, le gymnaste débute le concours des anneaux cet après-midi. Il fait partie d'ailleurs des rares privilégiés à avoir participé hier à la cérémonie d'ouverture.
C'est une joie qui est indescriptible. On porte tout un pays, toute une nation. On représente tous les Français sur le sol japonais, tous les Français qui n'ont pas pu venir. Nous, ça a été vraiment encore dans la bonne ambiance. On a mis de la musique. On dansait, on a chanté la Marseillaise. Bonne ambiance.
Et bon souvenir pour Samir Aït Saïd, le porte-drapeau de la délégation française.
Et on apprend à l'instant en tennis que les Français Mahut et Herbert ont été éliminés d'entrée dans le tournoi de double. Et les autres résultats, vous les trouverez dans le journal des Jeux à partir de 7h20. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on ira visiter le phare de Cordouan qui pourrait être classé à l'UNESCO aujourd'hui.
Europe Matin Weekend, Julien Pierce.
7h09 sur Europe 1, la suite du journal de Fanny Marceau avec un hommage ce matin à Amy Winehouse.
La chanteuse disparue il y a tout juste 10 ans aujourd'hui fascine toujours autant. Pour l'anniversaire de sa mort, plusieurs dizaines de fans se sont réunis près de son appartement dans le nord de Camden à Londres. Écoutez le reportage d'Anaïs Cordoba.
Autour d'un parterre de bouquets de fleurs et de photos d'Amy, certains griffonnent des mots d'hommage sur des pancartes, d'autres accrochent des ballons de toutes les couleurs. Parmi ces fans de la chanteuse réunis devant son ancienne demeure, Betaka, jeune étudiant slovaque venu vivre à Londres par amour pour son idole.
Ça fait déjà 10 ans, mais j'ai l'impression que c'était hier. Moi j'ai la vingtaine et m'imaginer mourir dans 6 ans, ça me brise le cœur. Donc quand j'entends sa musique, je suis très triste car je me dis qu'elle pourrait être encore là et ça c'est pas le cas.
Ils ont entre 14 et 65 ans, ils sont venus partager leurs émotions et leurs souvenirs. Il y a la joie de rendre hommage, la tristesse de cet anniversaire est toujours aussi vivace, ce sentiment de gâchis. Pour Michael, fan absolu au bras couvert des mêmes tatouages qu'Amy, si c'était aujourd'hui, son idole n'aurait peut-être pas connu ce destin tragique.
C'est dommage qu'on doive perdre quelqu'un pour que les gens réalisent jusqu'où les problèmes de santé mentale peuvent aller. Et avec le Covid maintenant, les gens ont tellement plus d'empathie pour ça. Ce qui lui est arrivé, c'est une tragédie, mais au moins, ça a aidé à cette prise de conscience.
Et 10 ans plus tard, un point commun unit ses fans, le réconfort qu'ils puisent encore et toujours dans les chansons d'Amy quand ça va mal. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Revenons en France, où le phare de Cordouan a de grandes chances d'être intégré à la liste du patrimoine mondial de l'humanité.
L'UNESCO rendra sa décision dans les heures qui viennent. S'il est choisi, ce phare de 67 mètres de haut dans l'estuaire de la Gironde rejoindrait le Taj Mahal, le Grand Canyon ou la Grande Muraille de Chine. Un privilège que le dernier phare habité de France a de grandes chances d'obtenir. Pascale Gott y croit en tout cas dur comme fer. Elle est la présidente du syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde.
C'est pas uniquement un phare qui guide les bateaux, c'est d'abord un monument qui a été construit pour afficher la puissance royale de la France face aux Anglais. Donc une volonté politique forte, une qualité architecturale exceptionnelle parce qu'il n'y a aucun autre phare au monde qui a une chapelle. C'est aussi le lieu de technologie puisque la lentille de Fresnel a été inventée au phare de Cordouan avant d'équiper la majorité des autres phares dans le monde. Donc on a un monument, un site, une valeur politique, une valeur historique. Et puis ensuite, il est gardé. Donc, il y a une charge émotionnelle aussi lorsqu'on voit ce monument habité en pleine mer. C'est vraiment très émouvant. Que vous y arriviez ou que vous partiez du phare de Cordouan, personne ne peut rester indifférent.
La présidente du SMIDEST, Pascale Goth, au micro européen de Pierre Herbulot.
On termine en musique à Lyon, où les nuits de Fourvière se poursuivent. Elles ont démarré il y a 2 mois.
Et s'achèvent le 30 juillet. Au programme ce soir, un groupe à mi-chemin entre le rock et la musique traditionnelle turque, Angèle Châtelier.
Au Grand Théâtre des Nuits de Fourvière, le groupe Altingun présentera ses chansons rock inspirées de la musique turque des années 60 et 70. Les membres du groupe viennent d'Amsterdam, mais deux d'entre eux sont d'origine turque. L'une de leurs chansons, Ordunun Dereleri, est une réinterprétation d'une chanson folklorique turque traditionnelle. Oy Mehmedim, Mehmedim, sana küstüm. Mais les festivités continuent ces prochains jours aux Nuits de Fourvière. Les 27 et 28 juillet, c'est la chanteuse Pomme, artiste féminine de l'année aux dernières victoires de la musique, qui prendra place sur la scène du Grand Théâtre.
Angèle Châtelier.
Et c'était le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny. Restez avec nous dans un